Merci Daniel. Chers collègues, mon propos de ce matin va se situer à la croisée de l'interprétation littéraire habituelle, celle que nous pratiquons,
tu approches le...
et qui vise à dégager un début de définition de l'intime sonien, mais aussi, en plus de cette démarche interprétative, il s'agira aussi de sociologie de la littérature. Et mon propos, s'il faut le titrer, pourrait être intitulé « Performer l'intime pour se soustraire à la mocheté et à la tyrannie du machin ». Lire les œuvres littéraires, ce n'est jamais exhumer le trésor ni la vérité qu'on leur prêtait avant Roland Barthes et la Nouvelle Critique, et encore moins ressusciter celles et ceux qui les ont rédigées lorsque ils ou elles ne sont plus de ce monde. C'est toujours les interpréter. Sonny Labutanzi n'échappe pas au lot commun. Il n'est à personne, seulement à ses lectrices et lecteurs, qui n'ont pas d'autre possibilité que de parcourir ses textes en fonction de ce que ceux-ci éveillent en eux, sur le plan de l'émotion, comme en matière d'intelligence du monde et des rapports dans lesquels chacun est pris. Je ne cède donc pas ce matin à la folie ni à la naïveté de substituer ma voix à celle de Sonny, que j'ai connu, fréquenté et aimé comme un grand frère, de 1989 à 1995, à Brazzaville, dans les vignes du Bordelais, en marge du Festival des Francophonies en Limousin, à son quotidien chevet, à l'hôpital Saint-Louis et au centre Édouard Rist. Pendant les deux dernières décennies, même si j'ai enseigné Sonny à plusieurs de mes classes, publiquement je me suis tu, déclinant toutes les invitations pour communiquer à son propos. J'ai préféré garder le silence, assumant à la fois les actes posés pendant mon séjour brazzavillois et mon livre, un essai maladroit du point de vue des normes académiques, en trop grande empathie avec ce que j'avais perçu de l'itinéraire de Sonny, cependant un ouvrage honnête dont je n'avais aucunement à rougir et dont je ne rougis toujours pas, d'autant qu'il a ouvert des pistes dont certaines sont loin d'avoir été réfutées, tandis que d'autres ont été confortées. Et si pendant ces 20 ans j'étais en colère, c'était seulement contre moi, et cela pouvait se discuter, puisque au Congo et en France, mon erreur avait été d'agir en conscience, en ignorant que le pays des ongles m'offrait le luxe d'en avoir une, tandis que Sonny, lui, évoluait dans un monde où, je le cite, « elle n'avait qu'à obéir aux réalités, à conscience ». Il se trouve qu'avec ma présence à cette table ronde, à l'invitation de Daniel, et mon intervention récente, le 24 avril, à Texas Technology University, à Lubbock, dans le séminaire de notre collègue Carol Edwards, j'opère un retour à Sonny Labutanzi. Je veux en effet croire que les conditions d'un débat autour de l'écrivain, de son intégration au champ littéraire francophone, sont enfin réunies, sans que quiconque n'ait à craindre une mise à l'index comparable à celle dont je suis l'objet, encore à ce jour, parce que je me suis appliqué en 1996 à expliciter, tant bien que mal, les conditions de son invention et de sa fabrication en tant que, je cite, « l'un des écrivains les plus importants du continent africain ». De fait, la réévaluation de sa trajectoire a commencé. Des écrivains refusent de prendre des vessies pour des lanternes, je songe à Patrick Besson, je songe à Théo Ananisso, et des collègues comme Xavier et d'autres ne sont pas en reste pour tracer de nouvelles perspectives. Dans une atmosphère qui n'est plus à couper au couteau, je prends le pari d'être entendu, sans être voué aux gémonies. Mon souci de préciser de quel lieu je m'exprime aujourd'hui ne signifie en rien que je verse dans la coquetterie, ni que je souhaite régler des comptes. J'entends plutôt me conformer à ce qui structure ma démarche et en l'espèce m'impose de ne pas omettre ce sur quoi on fait d'ordinaire l'impasse, en l'occurrence l'intimité littéraire et critique de Sonny Labutanzi. Avec cette formule, j'ai en tête l'image et la représentation de son rapport aux autres et à soi que ses commentateurs conservent et diffusent de lui, voire cultivent, a fortiori s'ils ont peu ou prou été admis dans le cercle de ses proches, les uns et les autres tressant une légende au terme de laquelle ils continuent de vivre en eux, lesquels n'ont pas d'autre ressource que de diffracter dans leurs travaux l'inaccessible vérité de celui qui est enterré au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Laissant la tâche de restituer l'intimité personnelle de Sonny à ses biographes, je n'aborderai que fort prudemment la conception de l'intimité qui dans sa vie a guidé Sony et dont on peut postuler qu'elle ne coïncidait pas avec l'idée qu'on s'en fait en Europe. En tous les cas, j'ai la conviction que déduire une théorie de l'intime de ses écrits, ceux issus de l'œuvre Fantôme et de celles publiées de son vivant, constitue un exercice des plus périlleux si on minimise le caractère performatif de son attitude, non pas celle clivante d'un auteur engagé, mais celle résolument sorcière, et pardonnez-moi l'emploi de ce mot, contagieuse, d'un homme engageant. Et si on omet d'envisager qu'elle ait pu interférer avec les mécanismes de légitimation et de reconnaissance au sein des champs littéraires africains francophones et français. Celles et ceux qui, dans cette salle, l'ont connue ne me contrediront pas. Sony Laboutansi avait un tel charisme qu'on en était ébranlé, au point, sinon d'en partager les combats, du moins de se sentir en sympathie avec eux et surtout en proximité avec lui. Quant à son écriture, sous sa forme romanesque la plus aboutie et dans de nombreux manuscrits de travail narratif ou poétique, là où les nécessités, choix et habitudes de l'édition française, son horizon d'attente, là où les choix de l'édition n'ont pas calmé et discipliné la bête, eh bien, son écriture, elle fouaille les régions les plus obscures des appareils psychiques des humains, machinant des images langagières, corrosives, parce que images ouvertes pour les plus efficientes d'entre elles, et que les lecteurs, en les parcourant des yeux, en les visualisant mentalement, en entendant dans leur tête retentir la voix muette qui leur donne un contour, en sont affectés car littéralement embarqués par elles. Ce sont des images de ce type qui ont servi de déclencheur et d'embrayeur à Sony. Il s'en est expliqué dans énormément d'entretiens. La prégnance d'une partie de sa production sur ses lecteurs est d'abord le comportement au quotidien de Sony, en quête d'un contact direct avec l'autre et d'un échange avec lui, procède de ce qu'on pourrait appeler, après avoir lu Xavier et ce qu'il énonce de la littérature d'interpellation du Diogène des Tropiques, d'une politique et d'une poétique de l'amitié basée sur la rencontre interpersonnelle, une interculturalité heureuse, une porosité à l'autre, une porosité aux musiques des langues et au monde, et misant sur une contamination réciproque. C'est à dessein que je fais allusion à cette notion en provenance des lettres latines et de Cicéron, désignant l'effort d'imitation et d'adaptation des œuvres et modèles grecs au génie latin, notion qui a justifié le principe de co-mise en scène auquel Sony Laboutansi a consenti pour être invité à Limoges au Festival des Francophonies de 1985 à 1989. Bien que je ne revienne pas sur la façon dont j'ai analysé cette obligation, je voudrais avancer que si l'écrivain ne l'a pas récusée, c'est aussi parce qu'elle a permis d'extraordinaires compagnonnages. Avec Daniel Mesguich à Limoges, avec Guy Lenoir à Brazzaville et à Bordeaux, sans toutefois, dans ce dernier cas, que le lien tissé n'ait eu besoin d'être contractualisé ni formalisé. Et que Sony a peut-être compris cette obligation comme la traduction administrative et civile de ce à quoi il aspirait, l'élargissement permanent d'une libre association d'amis au cœur même du social et de sa mocheté, afin de le phagocyter, le social, de le digérer et de le régénérer aux couleurs de l'humain. Ce faisant, si l'on accorde quelques crédits à Kaoutar Archi, quand pour restituer les parcours de Boualem Sansal et de Kamel Daoud, elle s'appuie sur des travaux plus anciens de Pascal Casanova et de Nathalie Heinisch, il ne faut pas écarter l'éventualité que l'être au monde de Sony ait été en phase aussi avec ce que le centre parisien du champ littéraire français attend des écrivains dominés lorsqu'ils sont en quête de reconnaissance, à savoir qu'ils investissent en plus de leur œuvre dans leur propre personne. La curiosité et l'engouement pour le sujet, ici un sujet postcolonial, l'emportant sur l'examen de ses écrits. S'étant construit comme écrivain dans la francophonie, Sony a dû se comporter en conformité avec elle par rapport au champ littéraire français, lequel s'en sert comme d'un sas pour sélectionner les auteurs de la périphérie appelés à rejoindre le centre et privilégie le genre romanesque sur tous les autres. Il ne pouvait qu'en être heurté, lui dont l'ambition était moins d'accéder à l'immortalité des lettres que de bâtir de son verbe un monde. En la matière, Sony sacrifiait peut-être à ce que Pierre Bourdieu a désigné du vocable d'illusio. Quand le vent de la démocratisation a soufflé sur l'Afrique, on a eu le plus grand mal à réfréner Sony. Il a dérogé à l'une des deux conditions pour être pleinement intégré au champ littéraire français et à ses dépendances francophones, à savoir la dépolitisation en sus de la déterritorialisation. Celles et ceux qui ont pris ombrage de son tour militant n'avaient pas pris la peine de l'écouter car il avait prévenu, je le cite, « Je ne serai jamais un écrivain, je veux dire l'écrivain qu'on aurait voulu ». À la veille de la conférence nationale de Brazzaville, le 25 février 1991, c'était un peu le désert autour de lui. Il décevait, de fait, ses relations francophonistes bien installées. On ne lui faisait guère plus la cour, on avait moins envie de l'aider, on se plaignait volontiers de ses caprices, le terme était souvent employé, du moins quand on était carriériste, ça c'est moi qui le dis. Et c'est à l'hôpital Saint-Louis que les opportunistes, là aussi c'est moi qui le dis, ont réapparu. Au festin du diable, j'ai le sentiment que Sony avait parié pouvoir manger sans en être éclaboussé, pour peu de repérer, je cite, le lieu exact d'où il estimait qu'il bousculerait et basculerait le monde. De ce Sony, en quête constante de ce point névralgique, ce lieu exact, sur lequel, en appuyant sa voix, il ferait levier, c'est à mon avis Dieudonné Nyangouna qui, dans sa contribution « Sony chez les chiens », en a brossé le portrait le plus profond. Il a su ne pas gommer les contradictions entre lesquelles oscillait son aîné, ni par conséquence morale ni intellectuelle, ni par volonté de conciliation. Puisque du jeu inhérent aux forces qui structurent les réalités humaines, sociales et politiques, forces en équilibre toujours instable, il s'ingéniait, Sony, et s'échinait à tirer parti. Selon une ligne stratégique visant à saper les situations les mieux établies et à corriger les assujettissements perpétrés et sans cesse renforcés par et dans une histoire qui, ouvrée par l'Europe puis par l'Occident, a pour le profit la dévastation de la planète, mis sous relation les peuples et les cultures et atomisé les individus au sein d'un corps social de plus en plus en permanente anomie. Son intention était, si je l'ai correctement saisi aujourd'hui, de renverser les hiérarchies et les dominations sans les affronter, ce qui aurait été vain, mais de les faire ployer d'elles-mêmes, ou du moins vaciller, en enfonçant des coins dans leur agencement de manière à affecter leur centre de gravité et en vue d'obtenir que leur propre pesanteur les ébranlât. Ni guerre de position, ni guerre de mouvement au sens gramscien, l'approche politique de Sony, c'est-à-dire du gouvernement des humains et de leur interaction entre eux, n'était pas rectiligne. C'était celle, accordez-moi cette expression, d'un danseur venu de la forêt dont les pas avaient vocation à subvertir les rigidités, les iniquités et les suprématies en les neutralisant et ou en les débordant dans l'espace. Je reconnais des échos de cette thèse dans les propres déclarations de Sony, par exemple à Algérie Actualité en 1985, quand il dit « Je suis un homme de la forêt, et la forêt cache toujours, la forêt c'est la luxuriance. Si vous suivez une liane, vous arrivez à des centaines d'autres. La forêt ce n'est pas la ligne droite. C'est pourquoi mon écriture peut être définie comme l'écriture de la forêt vierge. Dans cette forêt, il y a le fleuve, le Congo, qui par endroit atteint 7 km de large, ce fleuve se débat, et c'est cela que je veux traduire dans sa réalité complexe. Il est difficile d'imposer la ligne droite à un Africain des forêts. » Fin de citation. Cette progression, je dis bien cette progression, en contournement et en zigzag, valait pour les sphères publiques, l'investissement de Sony dans la cité et au sein du champ littéraire francophone, mais elle valait aussi pour les sphères privées, la somme des alliances et des relations nouées en vertu d'une Weltanschauung où l'intime n'est jamais indépendant du politique. Ce serait tourner le dos à la sociologie de la littérature et verser dans l'hagiographie en prêtant à Sony une marge de manœuvre bien plus étendue que celle qu'il avait en réalité, que de ne pas discerner dans cette continuelle godille la conséquence du faisceau de contradictions auquel il était soumis et qui le contraignait aux chiffres et au cryptage en chers mots de passe, afin de ne pas s'aliéner les instances francophones qu'il avait distinguées, puis promues. Je le rappelle, le concours théâtral de RFI, les éditions du Seuil, la coopération française et ses agences et services culturels, ni les secteurs de la société et du régime congolais qui le protégeaient, ni la communauté des écrivains et intellectuels congolais, la Fratrie et Africains, à laquelle il s'est agrégé, ni les compagnies pétrolières françaises et italiennes présentes au Congo, du mécénat desquelles il était le principal bénéficiaire, ni les organisations et associations étatiques ou non gouvernementales internationales qui lui ont servi de relais. Ce faisant, le nominalisme auquel il inférait sa pratique littéraire et subordonnait son action politique renforçait sa graphomanie. Écrire, c'était pour lui parler durablement le monde, s'en emparer dans les raies de l'imaginaire et du symbolique, et le remodeler tel un démiurge, le roulant, tournant et filant quasi continuellement à son image. Jean-Luc Rahimana n'a pas tort quand il considère que la parole parlée en sonne la boutancie. Cette coulée s'est cristallisée dans la profusion d'avant-textes, symptomatiquement couchés sur des cahiers d'écoliers. Nicolas Martin-Granel et Xavier Garnier en ont décrit la dynamique. Ce flot transformationnel, une logorée irrépressible, à la fois parlée et parlante, dans la psyché de son imprécateur et dans celle de ses lecteurs et auditeurs, ce flot, passant d'un support à l'autre, s'apparente, selon moi, à une scriptura scripturans, en métamorphose d'elle-même, se réorganisant sans cesse, comme le fantasme, aux antipodes de tout ornement du discours, mais dans l'urgence d'un devenir humain déjouant les normes de la société marchande et patriarcale. Au soir de son existence, Sony s'est-il aperçu que pour paraître au banquet des sorciers et des tyrans du machin de ce temps, définitivement par terre, comme le ciel, la terre, les choses, tout, eux aussi complètement par terre, la cuillère dont il s'était muni n'était pas assez longue. Et si oui, comment s'en est-il arrangé? En relisant l'Apocalypse de Jean, en méditant sur la création dont on n'accouche que dans la douleur et en se préparant à une seconde naissance? Si au pays des mille collines, le mythe d'une Afrique innocente est mort sous les machettes des génocidaires, il se pourrait que le 22 juin 1995, avec Sony Laboutansi, on ait porté en terre l'un des derniers 10 heures de fables africains. En sa personne, la francophonie a perdu un fils adopté qui, avec ses velléités d'émancipation, l'avait agacé. Elle, qui a un faible pour les peaux noires maquillées à la céruse, veut désormais en faire une icône. Les morts, bien évidemment, ne contrarient jamais. C'est même parmi eux qu'on a les affidés les plus sûrs. Je vous remercie.
Je voulais par rapport à ce que vous disiez sur la danse et le renversement des dominations sans la beauté, je voulais juste un petit peu mieux comprendre comment vous percevez.
Alors d'abord, je n'en sais rien. J'ai mis une hypothèse, avec beaucoup de modestie. Nicolas et d'autres peuvent le confirmer. Il expliquait son nom en disant la boue, ça vient de la boula, la ceinture dont on se ceint les reins pour danser. Je me souviens très bien que à la mort de son père, il y a eu devant sa maison de Makelekele une cérémonie avec des danseurs Congo qui étaient là. Il a dansé. Il disait qu'il était un danseur. Bon, et ça m'a frappé aujourd'hui, en lisant tous ces textes qu'on ne connaissait pas grâce à Nicolas, à d'autres, je crois que ce qu'on appelle un peu vite les contradictions de Sony, c'était tout à la fois des choses, des rapports dans lesquels il était pris, et c'était ainsi, et puis, je crois... Ce que je sens aujourd'hui, c'est que sa démarche, ce n'était pas de vouloir renverser les choses, mais c'était de faire levier. Voilà. Et de faire levier notamment avec sa parole, avec son discours. en rédigeant les notes pour aujourd'hui, il y a eu un télescopage. J'ai pensé à la danse, donc le pas de danse, mais un pas de danse qui vise à ce que le partenaire tombe, mais tombe par son poids, parce que le centre de gravité du partenaire serait mis en défaut. Et je crois que c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, me permet de revisiter, de relire les textes publiés de son vivant comme ceux qui sont publiés à titre posthume, et peut-être aussi qu'il y a là quelque chose qui nous permet, avec beaucoup de prudence, à comprendre son rapport à son propre intime. C'est-à-dire, je crois vraiment, si vous me permettez, j'arrêterai là, que c'était un homme engageant, qui bouleversait les interlocuteurs et les interlocutrices auxquelles il s'adressait. Il était engageant, il performait son être. Pour moi, c'est quelque chose qui, 20 ans après, je ne dis pas qu'il me paraît évident, c'est une hypothèse, mais je crois qu'il était vraiment dans une démarche de performation, de performance. Voilà, je ne sais pas si je...
Il est question, si on peut parler d'une forme de fuite, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être saisissable, c'était juste pour comprendre si c'était de ce point de vue-là, le pas de danse.
Je pense, enfin, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, il me semble que Dieudonné est sur le plan, en tous les cas littéraire, l'une des personnes qui parle le mieux de Sony en ce moment. Voilà, et je le dis. Voilà.
Je voudrais juste ajouter, pour aller un petit peu dans ton sens, dans une correspondance inédite à une amie brésilienne. Cette correspondance paraîtra dans le prochain numéro, enfin, pas tout entière, mais prochain numéro sur Afrique-Brésil. Sony dit, comme je n'ai pas le temps de lire, de vivre ma vie, je la danse. Donc voilà. Je porte de l'eau à ton moulin. Et toute cette communication sur le Brésil, sur cette utopie brésilienne qu'il a eue, c'est sur la forêt, sur l'Amazonie. Et donc, plein de citations sur la forêt et comment il a, surtout vers la fin, en quoi ça se lie au commencement des douleurs.